Bonjour. Aujourd'hui, nous offrons une section de texte tirée des médias suivants. Le Devoir et la Presse. Au programme, aimer ou redouter l'équinoxe fiscal. Conseils pour parler vapotage à son ado. Et des tables vides qui coûtent cher. Bonne écoute.
Aimer ou redouter l'équinoxe fiscal. Un texte de Sandy Lachapelle, paru le 25 mars dans Le Devoir. Tandis que la majorité des gens s'égayent au son des petits oiseaux et des débits d'eau qui coulent en rigole à la fonte des neiges, je lutte très fort pour ne pas provoquer mes interlocuteurs en affirmant que je n'aime pas le printemps. Je préfère de loin les tempêtes de neige et le ski de fond, qu'elles permettent, aux pluies et à la fonte, que j'associe inconsciemment au traumatisme subi par quelques dégâts d'eau. Au printemps, en plus de devoir supporter la vue des tapis à renettoyer constamment dans l'entrée, la torture s'étire, pour certains, jusqu'aux obligations entourant la préparation de la déclaration de revenus. Notre culture est définitivement colorée par notre climat et ses changements de saison. Nous sommes ainsi passés de la saison des REER à la saison des impôts dans le paysage médiatique. Cette période d'équinoxe fiscal polarise tout autant les esprits. Il y a ceux qui doivent payer des impôts et les autres qui s'attendent à un remboursement. C'est dire combien les particuliers n'abordent pas du tout leur préparation à la tombée du 30 avril avec le même état d'esprit. Le remboursement d'impôts appliqué aux stratégies financières. Si vous faites partie des chanceux du deuxième groupe, voici quelques pistes pour utiliser de façon judicieuse ce remboursement. Le fait de vous doter d'un plan prédéterminé d'affectation de cette somme avant de la recevoir réduira vos chances de succomber à un excès d'enthousiasme devant une augmentation soudaine de vos liquidités disponibles. Non, un changement de mobilier de jardin ou l'achat d'un voyage improvisé ne constitue pas vraiment une affectation d'utilisation de capital valable, même si nous convenons tous que les endorphines générées par ces transactions battront sans équivoque celles faisant suite à un remboursement de votre marge de crédit, par exemple. Soulignons ici deux conseils incontournables. Sachant qu'un plan financier devrait toujours être réfléchi selon des facteurs personnalisés. D'abord, les parents devraient utiliser le remboursement d'impôts pour bonifier le régime enregistré d'épargne-études, REEE, de leurs enfants, ou pour en ouvrir un sans hésiter, afin de recevoir, de la part des deux ordres de gouvernement, les généreuses subventions s'y rattachant, qui peuvent atteindre jusqu'à 30 % des sommes investies. Bien que les cotisations à des REE soient en hausse au Canada depuis 2016, une certaine incompréhension du programme fait en sorte que certains parents s'abstiennent de cotiser par crainte de devoir donner la totalité de leurs placements détenus dans ce régime à leurs futurs génies en herbe. Toutefois, il est tout à fait possible pour le souscripteur de limiter le soutien financier aux enfants, aux prestations d'aide aux études retirées du régime et de reprendre les cotisations restantes pour les investir plus tard à titre personnel. Il est donc impossible, à mes yeux, de cotiser trop à ce généreux programme. Si vous n'avez pas d'enfant à charge, le remboursement d'impôts devrait être consacré au remboursement de vos emprunts dont les intérêts sont non déductibles, soit les dettes de consommation, comme les cartes et marges de crédit personnel. En l'absence de celles-ci, on fera de nouvelles cotisations REER en prévision de la retraite ou, en nouveauté dans les prochaines semaines, on ouvrira un compte d'épargne libre d'impôt, CELI, pour l'achat d'une première propriété. En effet, si vous n'êtes pas propriétaire d'une habitation admissible, vous pourriez cotiser à ce nouveau régime à partir de votre remboursement grâce à vos cotisations REER de 2022 et, éventuellement, profiter à la fois de ces deux régimes pour consolider votre mise de fonds éventuelle pour l'acquisition de votre résidence. Évitez les mauvaises surprises l'an prochain. Les nouveaux travailleurs autonomes font souvent partie des contribuables qui s'attendent à une facture fiscale au 30 avril, tout comme les nouveaux propriétaires d'entreprises constitués en société s'étant versé des avances dans les deux premiers exercices d'exploitation. S'ils bénéficient du sursis de verser des acomptes provisionnels pour la première année de leur entreprise, la surprise est souvent inversement proportionnelle à leur taux de réussite en tant que nouvel entrepreneur. L'utilisation d'un compte bancaire distinct de celui réservé aux besoins personnels pour encadrer la pratique d'affaires des travailleurs autonomes est à envisager afin de faciliter la constitution et le maintien d'un fonds de roulement prévoyant les acomptes provisionnels et les autres dépenses variables. La gestion des liquidités est un défi pour tous les entrepreneurs dont les revenus ne sont pas toujours aussi stables que ceux des salariés. Pour les salariés qui changent d'emploi en cours d'année 2023, assurez-vous également que les prélèvements à la source soient ajustés afin de couvrir le revenu complet estimé à la fin de l'année, ou encore contribuer davantage à votre REER pour annuler l'impôt supplémentaire à payer si c'est le cas. La contribution à un REER de façon périodique et systématique, en plus de faciliter l'épargne et de réduire votre exposition à la volatilité des marchés, permet d'éviter les mauvaises surprises printanières. Dans tous les cas, un facteur clé pour apprivoiser la période de préparation de votre déclaration de revenus consiste à s'organiser. L'idéal est de faire une comptabilité personnelle mensuelle ainsi que de prendre soin de toujours classer et conserver les documents importants. Qu'on l'aime ou pas, la saison des impôts reviendra chaque année en même temps que la saison de la boue. C'était Aimer ou redouter l'équinoxe fiscal. Un texte de Sandy Lachapelle, paru le 25 mars dans Le Devoir. Conseil pour parler vapotage à son ado. Un texte de Véronique Larocque, paru le 19 mars 2023 dans La Presse. Seulement 5% des parents croient que leur adolescent a déjà vapoté, indique que des données du Conseil québécois sur le tabac et la santé, CQTS. La réalité? Plus de 40 % des jeunes de 4e et de 5e secondaire l'ont essayé. Alors que les études démontrant les effets nocifs et addictifs de ces produits s'accumulent, comment peut-on sensibiliser son enfant aux risques liés au vapotage? Voici 5 conseils. Cours 101 du vapotage. Avant toute chose, mieux vaut s'informer sur le sujet. Croit Annie Papagiorgiou, directrice générale du Conseil québécois sur le tabac et la santé. Dans les dernières années, des mythes ont circulé sur le vapotage. Des exemples? On a notamment entendu que la fumée produite n'est que de la vapeur d'eau ou que les vapoteuses ne contiennent pas de nicotine. Or, bien que certains liquides de vapotage sans nicotine existent, 90 % de ceux consommés par les jeunes en contiennent, selon les chiffres du CQTS. C'est prouvé que la nicotine altère la mémoire et la concentration des adolescents, souligne Annie Papagiorgiou. Elle peut aussi favoriser l'apparition de troubles psychologiques comme la dépression, le stress, l'anxiété. On sait également que ça peut affaiblir la capacité des poumons. La directrice générale du CQTS croit que les parents doivent être au courant des effets nocifs du vapotage et les invite à consulter le site Québec sans tabac pour obtenir plus d'informations. Le dialogue plutôt que la peur. On souhaite décourager son jeune d'essayer la vapoteuse? Tenter de lui faire peur en lui exposant toutes les recherches sur le sujet n'est pas l'avenue que recommande Annie Papagiorgiou. Mieux vaut miser sur le dialogue en validant auprès de lui ce qu'il connaît de la vapoteuse et ce qu'il en pense. Myriam D. Asselin, directrice Innovation et Développement chez tel jeune, croit aussi en l'importance d'ouvrir la discussion avec son adolescent. C'est toujours bien de fonctionner avec des questions ouvertes. Ça permet de saisir où notre jeune se situe dans sa compréhension du sujet. Que penses-tu du vapotage? Ou est-ce populaire à ton école? Sont deux exemples de questions possibles. Les parents s'imaginent souvent que leur jeune n'a pas envie de parler de ces sujets-là avec eux. Mais les études démontrent, au contraire, que les jeunes s'attendent à avoir ces discussions avec leurs parents. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas rouler des yeux, mais les parents demeurent la source fiable et de confiance pour un jeune, souligne Annie Papagiorgiou. Plus tôt que tard. Sachant que certains élèves commencent à vapoter en 5e ou en 6e année, devrait-on aborder le sujet avec son enfant d'âge primaire? Moi, je dirais le plus tôt le mieux, répond Myriam D. Asselin. Selon elle, cela montre à l'enfant que son parent est ouvert à discuter de ce sujet et qu'il peut se tourner vers lui s'il a des questions. Ce n'est pas vrai qu'en parler va l'inciter à consommer. Au contraire, ça vient aiguiser son jugement critique et donc peut-être même décourager le jeune à l'essayer, fait valoir la porte-parole de tel jeune. La discussion doit toutefois être adaptée au niveau de compréhension de l'enfant. Et peu importe l'âge auquel on aborde le sujet pour la première fois, il est bon d'en rediscuter périodiquement. Ce n'est pas parce qu'on a posé la question une fois, quand son adolescent était en première secondaire, qu'il ne faut pas la reposer 3 ou 4 mois plus tard. Un jeune, ça évolue tellement rapidement que ses positions peuvent changer, soutient Annie Papagiorgiou. Des limites à mettre. Au Québec, un adolescent sur 5 vapote, selon l'Institut national de santé publique du Québec. À certains endroits, il est même facile pour les moins de 18 ans de se procurer des produits de vapotage, a d'ailleurs récemment démontré un article de la presse. Si votre jeune fait partie de ces statistiques et que vous souhaitez qu'il cesse de fumer, que pouvez-vous faire? Myriam D. Asselin croit qu'il faut rester à l'écoute de son enfant, mais cela ne signifie pas qu'on ne doit pas mettre ses limites. Les jeunes ont besoin de cadres, affirme-t-elle. On ne veut pas que son jeune vapote à la maison, à l'école. On le lui dit, tout en expliquant les raisons qui motivent cette règle, suggère Myriam D. Asselin. L'adolescent tentera peut-être de la contourner, prévient-elle toutefois, car à cet âge, c'est normal d'aller expérimenter à l'extérieur. Petite victoire. Dépendance, essoufflement. Certains effets du vapotage sont ressentis rapidement par les jeunes, affirme Annie Papagiorgiou. Si bien qu'environ un adolescent qui vapote sur deux a envie d'arrêter. Comment peut-on l'accompagner dans son cheminement? Les encouragements de l'entourage peuvent être très bénéfiques, croit la directrice générale du CQTS. On peut notamment souligner de petites victoires, comme une soirée sans fumer. L'amener à modifier sa routine peut aussi contribuer à un changement d'habitude. Créé pour les jeunes, le site Brise l'illusion présente différentes ressources d'aide pour arrêter de vapoter. C'était « Conseil pour parler vapotage à son ado », un texte de Véronique Larocque, paru le 19 mars 2023 dans La Presse. Des tables vides qui coûtent cher. Un texte de Nathaëlle Morissette, paru le 26 mars 2023 dans La Presse. Réserver une table pourrait-il devenir chose du passé? Chose certaine, les clients qui n'honorent pas leur réservation coûtent cher aux restaurateurs. Communément appelé « no-show », le fléau entraîne en moyenne des pertes annuelles de près de 50 000 $ pour les établissements qui y sont confrontés. Pour un restaurant franchisé, les sommes perdues sont évaluées à environ 62 000 $, alors que pour un restaurant indépendant, elles atteindraient 43 000 $. Près de 65,6% des restaurateurs affirment que le nombre de tables laissées vides par des clients qui leur posent un lapin est en constante augmentation, révèlent les résultats d'une enquête menée par l'Association Restauration Québec, ARQ. En raison de l'ampleur du fléau, l'ARQ a sondé ses membres en janvier afin de pouvoir chiffrer les pertes financières causées par les réservations non honorées. Une première. Il s'agit des rares données disponibles sur le sujet, confirme Martin Vézina, vice-président aux affaires publiques et gouvernementales de l'ARQ. La presse a pu consulter les résultats de cette enquête intitulée « Le no-show et l'industrie de la restauration ». À la lumière de ces données, l'association souhaite avoir un argument de plus pour convaincre le gouvernement de permettre aux restaurateurs de faire payer des pénalités aux clients récalcitrants. Elle se questionne dans la foulée sur la survie du modèle classique des réservations. Dans l'éventualité où le nombre de réservations non honorées continuerait de croître, il est fort probable que le nombre de restaurants qui acceptent les réservations viendrait à diminuer. Peut-on lire dans le bulletin ARQ Stats destiné aux membres? Ainsi, des établissements ont décidé, par exemple, de ne plus accueillir de groupes. D'autres, au contraire, acceptent seulement les réservations pour les tables composées de 6 convives et plus. Selon Martin Vézina, le modèle de réservation tient toujours. Mais oui, il se pourrait que certains établissements réfléchissent à l'idée de continuer ou non à prendre des réservations. On voit de plus en plus différents modèles. Ça crée des changements dans la gestion des réservations. Pour le moment, il est toujours possible pour les clients de réserver une table dans 94 % des établissements du Québec. Parmi ceux qui refusent de le faire, 66,7% ont pris cette décision afin d'éviter d'être confrontés à des cas de no-show. Changer les règles du jeu. S'ils ne sont pas prêts à fermer leur carnet de réservation de façon définitive, certains restaurateurs ont, de leur côté, revu les règles du jeu dans la façon dont ils accueillent leurs clients. À Chambly, au restaurant La Cochonnerie, on se dit prudent avec les groupes de 10 personnes et plus, admet le gérant Philippe Michaud. Des groupes très volumineux, c'est très accaparant, souligne-t-il. Souvent, ils arrivent, ils sont plus nombreux que prévu ou encore moins nombreux que prévu. Des fois, ils annulent à la dernière minute. Des fois, ils ne se présentent pas. Plutôt que d'hypothéquer une soirée au complet avec des groupes, on préfère garder de la place pour nos clients réguliers. C'est vraiment à eux qu'on veut donner la priorité. On veut être certain qu'il reste de la place pour nos clients réguliers qui viennent nous voir toutes les semaines. Vous écoutez « Des tables vides qui coûtent cher », un texte de Nathaël Morissette, paru le 26 mars 2023 dans La Presse. Du côté de Satay Brothers, rue Notre-Dame à Montréal, seuls les groupes comptant 6 personnes ou plus peuvent réserver. Pour les tables plus restreintes, on fonctionne selon le principe du « premier arrivé, premier servi », explique le copropriétaire Alex Winicky. Les gens sont souvent en retard pour leurs réservations, souligne-t-il également. Si chaque fois que nous avions des tables ouvertes, on devait attendre après 2 personnes qui ont réservé, alors que pendant ce temps, il y a des gens qui se présentent à la porte et qui sont prêts à manger, ça deviendrait difficile à gérer. On aime garder pas mal de tables ouvertes, dit-il, tout en qualifiant cette façon de faire de système à 2 vitesses. Je crois que tout le monde en restauration aimerait revoir un peu le modèle de réservation, surtout pour pouvoir se protéger. Mais la prise de réservation, c'est quand même nécessaire. Il y a beaucoup de restaurateurs qui vont vouloir prendre des réservations pour s'assurer d'un minimum de clients. L'ARQ partage le même point de vue. La réservation demeure le meilleur outil de gestion des employés et des denrées. Voilà pourquoi elle milite pour avoir un cadre juridique permettant d'imposer une pénalité quand un client ne se présente pas à sa réservation. Cette amende serait d'environ 20 $. Pour le moment, la loi ne permet pas aux restaurateurs d'imposer ce genre de pénalité. Ce qui est interdit, c'est de fixer à l'avance, par écrit ou verbalement, un montant qui serait dû si le client n'honore pas le contrat, expliquait à La Presse, il y a quelques mois, Charles Tanguay, porte-parole de l'Office de la protection du consommateur, OPC. L'un des principes de droit, à la base de l'article 13, est que nul n'est censé se faire justice soi-même, qu'on ne peut pas arbitrairement fixer soi-même le montant d'un dommage éventuel, ajoute-t-il. Des rencontres ont eu lieu depuis janvier entre l'ARQ et l'OPC. Le dossier est à l'étude, mais il y a une ouverture à prendre en considération notre solution, qui pourrait prendre la forme d'une loi ou règlement, indique Martin Vézina. Ce dernier soutient que le dossier pourrait se régler d'ici la fin de l'année. Pendant ce temps, les restaurateurs multiplient les stratégies pour éviter que les clients leur fassent faux bon. Certains vont même jusqu'à dresser une liste noire de gens reconnus pour ne pas honorer leurs réservations. D'autres, comme ce fut le cas avec le restaurant Les Vilains Garçons, dénoncent publiquement sur Facebook le fait qu'un client ne se soit pas pointé, rapportait le quotidien Le Droit en février. Des établissements exigent, pour leur part, un numéro de carte de crédit et facturent des frais si le client ne se présente pas. Une pratique pourtant illégale, du moins pour le moment. Ce que l'on propose, c'est une solution qui est simple et qui va peut-être éviter les débordements, soutient Martin Vézina. C'était « Des tables vides qui coûtent cher », un texte de Nathaël Morissette, paru le 26 mars 2023 dans La Presse.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visevoir.com. Cette émission est rendue possible grâce à Claire Dorion à la lecture, Daniel Veillette à la recherche, Nicolas Zwartman à la présentation et au montage.